le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO et toutes les agences des Nations Unies en RDC ont mobilisé pour soutenir les efforts du gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. La représentante spéciale du secrétaire général le déclare dans un message rendu public jeudi dernier. Léla Zerougui souligne en même temps que toutes les restrictions que s'impose la mission onusienne ne s'éloignent pas de sa mission première, notamment celle de venir en aide aux vulnérables et de les protéger face à la menace de leur sécurité physique. Et comme pour confirmer le message de la représentante spéciale, l'UNICEF met la main à la pâte et s'associe au gouvernement de la RDC en appuyant l'axe de la prévention. Déjà, plus de 200 000 affiches et 1,5 million de dépliants avec des messages de sensibilisation à déployer dans toutes les zones de santé. Édouard Begbeder, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en RDC, est notre invité. Dans un tout autre registre, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'implique dans la réflexion sur les réformes électorales envisageables en République démocratique du Congo. Un atelier a été organisé à cet effet la semaine dernière avec l'appui du National Democratic Institute, NDI. Dans ce magazine, l'appel d'un activiste de droits de l'homme. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour. Les Nations Unies, à travers tout son système présent en RDC, regroupant la MONUSCO, ainsi que les agences, les fonds et programmes, sont pleinement mobilisés pour soutenir les autorités congolaises face à la menace coronavirus. Une déclaration de Léla Zerougui dans un message rendu public jeudi dernier. Les détails de ce message avec Honoré Missingakalala.
La représentante spéciale note que comme la plupart des pays dans le monde, la RDC fait face aujourd'hui à une menace sans précédent. Le Covid-19 n'épargne aucune nationalité, communauté ou religion. Rappelle-t-elle, avant de rassurer que la MONUSCO et les autres entités du système onusien de la RDC prennent toutes les mesures nécessaires pour contenir la propagation de cette pandémie conformément aux décisions du gouvernement congolais et en droite ligne avec les recommandations de l'OMS. Léla Zerougui fait voir à cet effet que tous les staffs des Nations Unies, à leur retour des pays touchés, ont respecté une quarantaine auto-imposée de 14 jours et ont réduit au maximum leurs déplacements, notamment à Kinshasa. La rotation du personnel en uniforme de la MONUSCO est suspendue et les voyages non essentiels à l'intérieur du pays sont limités jusqu'à nouvel ordre, signale encore la patronne de la mission onusienne. La représentante spéciale ajoute cependant, je cite, « Toutes ces mesures ne nous éloignent pas de notre mission première en République démocratique du Congo, venir en aide aux populations les plus vulnérables, les protéger des menaces qui pèsent sur leur sécurité physique et faire en sorte que la RDC puisse s'engager sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement. » Fin de citation.
Et parmi les actions à mettre à l'actif du système des Nations Unies en RDC dans son implication dans la lutte contre le Covid-19, l'appui de l'UNICEF au gouvernement dans la sensibilisation des masses sur l'ensemble du territoire national, en commençant par Kinshasa. Justine Moussa Opondé.
L'UNICEF a élaboré des messages clés à l'intention de relais et animateurs communautaires qui seront déployés dans 35 zones de santé de la ville de Kinshasa pour sensibiliser les populations. Plus de 200 000 posters et 1 500 000 dépliants ont également été produits en français, Lingala et Swahili. Dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'UNICEF a installé des points de contrôle et des lavages de mains pour prévenir et contrôler la propagation du coronavirus. Plus de 160 000 masques de protection, 90 000 paires de gants, 10 000 combinaisons stériles, des thermomètres et autres intrants seront positionnés aux cliniques universitaires de Kinshasa, à la clinique chinoise, à l'hôpital du cinquantenaire, à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, à l'hôpital de Monkolé et à l'hôpital de Kinkolé. L'UNICEF va appuyer le suivi des contacts, la désinfection des ménages de cas confirmés et les enterrements sécurisés. Par ailleurs, 50 respirateurs, 2000 réanimateurs manuels, 145 concentrateurs d'oxygène, 100 ventilateurs ont été achetés. Ce matériel arrivera dans les prochaines semaines.
Covid-19 toujours, la communauté humanitaire opérant en République démocratique du Congo s'apprête aussi à apporter sa contribution dans ce combat en continuant d'apporter des réponses aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables. Le coordonnateur humanitaire en RDC, David McLachlan, a fait part de ses bonnes dispositions dans un communiqué publié le 21 mars dernier à Kinshasa. Freddy Lufulabo revient sur ce communiqué du coordonnateur humanitaire.
Dans un contexte sanitaire fragile, il est vital que nous agissions individuellement ou collectivement, en conformité avec les mesures décidées par le gouvernement congolais et l'Organisation mondiale de la santé, déclare David McLachlan Carr. Selon lui, le risque d'expansion de COVID-19 en RDC pourrait accroître les besoins humanitaires et affecter les opérations en cours, et d'ajouter, je cite, « Les efforts que nous faisons aujourd'hui en matière de prévention et de réduction des risques doivent être maintenus sur tout le territoire national afin de contribuer à éviter au pays une crise sanitaire majeure. Il faut donc maintenir les couloirs humanitaires pour faciliter l'arrivée du matériel médical, d'équipements humanitaires ainsi que du personnel. » Question de continuer de renforcer les efforts de prévention et de réponse. Le communiqué rappelle que le plan des réponses humanitaires 2020 a pour ambition d'apporter une assistance à plus de 8 millions de personnes en très grande vulnérabilité en RDC.
Après la santé, parlons démocratie à présent. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et d'autres partenaires s'implique dans la réflexion sur les réformes électorales prioritaires à envisager en RDC. Un atelier organisé avec l'appui du National Democratic Institute, NDI, a eu lieu la semaine dernière à Kinshasa. Maître Sylvain Lumu de l'ASBL, synergie des missions citoyennes des élections Simocel, participant à cet atelier, en a appelé à la mobilisation de tous les acteurs pour la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Suivez plutôt les propos de l'activiste Lumu, recueilli par Jean-Désiré Kanyama.
En tout cas, nous envisageons que toutes les réformes en ce qui concerne les questions électorales soient abordées. Parce que n'oubliez pas que les réformes qui ont été faites jusqu'ici, elles concernaient soit la loi électorale, soit la loi sur l'enregistrement des électeurs, soit la loi organique de la CENI. Mais les conséquences qu'elles emportaient sur les autres questions liées à l'organisation et à la tenue des élections n'ont pas été abordées dans l'ensemble. Et donc ici, il s'agit de voir les questions de manière holistique, d'envisager les réformes sur le système et non sur un élément, de telle sorte que l'interaction entre les différentes législations soit harmonisée, équilibrée et que ces réformes soient le plus consensuelles, sinon partagées par l'ensemble des parties prenantes. La responsabilité est collective. C'est une question sociétale. Les difficultés que rencontrent tous ces acteurs sont des difficultés qui sont structurelles, des difficultés liées également au contexte. L'intérêt pour nous tous, c'est que l'organe de gestion des élections assure l'égalité des chances à tous les compétiteurs, et c'est cela que nous pensons qui devrait être observé. C'est un processus et nous courons tous ensemble vers des améliorations sur notre système électoral. Et ça devrait mobiliser tous les acteurs.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
C'est déjà presque la fin du mois de mars, mois de la femme. Le MAC-UN revient sur l'entretien que lui a accordé Pascaline Palama, experte en communication et plaidoyer à l'ONG Save the Children RDC. Pascaline Palama répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Pascaline Palama, bonjour.
Bonjour monsieur.
Votre ONG a initié un projet dénommé Bien Grandir Plus. Alors brièvement, parlez-nous de ce projet madame.
Le projet Bien Grandir Plus, c'est un projet implémenté dans la ville de Kinshasa, plus précisément dans le district de Tchango. C'est un projet qui vise la transformation de normes sociales et celles liées au genre. Ce projet intègre le paquet d'activités de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, la planification familiale et même les violences basées sur le genre. Ce projet a comme particularité de pouvoir s'adresser aux adolescents de 10 à 14 ans, la tranche d'âge qui, depuis tout ce taux n'avait pas été pris en compte dans les interventions ciblant les adolescents et jeunes. Et une autre particularité de ce projet, c'est que nous offrons le service de planification familiale ou de contraception aux adolescents de 15 à 19 ans.
Le 8 mars, c'est la femme qui est à l'honneur. Ouais. Est-ce que votre projet promeut l'autonomisation des jeunes adolescents des 10 à 14 ans et des 18 à 19 ans? Est-ce qu'ils sont pris en compte en ce qui concerne leur autonomisation?
Oui, effectivement, notre projet a un ancrage réel avec l'autonomisation de jeunes filles, dans le sens où nous fournissons aux adolescentes des informations pour renforcer leur capacité de décision, par exemple dans l'utilisation de méthodes contraceptives modernes, dans l'utilisation de préservatifs et même le pouvoir de décider s'ils doivent faire usage de la discipline positive ou non. Donc vraiment notre projet donne des informations nécessaires pour que les adolescents puissent être en mesure de pouvoir bien se comporter dans la vie, de pouvoir prendre des décisions importantes concernant leur vie sexuelle.
Et votre projet est basé essentiellement ici dans la capitale, et vous l'avez dit à Tiangou justement. Comment assurez-vous l'encadrement de ces adolescents concrètement sur le terrain?
Déjà, il faut dire que nous intervenons en faveur des adolescents de deux catégories. Il y a les adolescents scolarisés et les adolescents non scolarisés. Avec les scolarisés, ce que nous faisons, c'est d'abord au niveau de l'école, nous formons les enseignants, nous leur donnons la matière indispensable pour pouvoir dispenser le cours d'éducation à la vie familiale. Et non seulement ça, nous organisons les clubs scolaires. Au niveau de clubs scolaires, nous formons les leaders des clubs pour qu'eux puissent organiser les activités de sensibilisation au sein du club, les activités que nous appelons communément les causeries éducatives. Ils choisissent un thème précis dans les outils que nous avions mis à leur disposition. Ils traitent entre eux, ils échangent et après, ils prennent des engagements relatifs au changement de comportement. Il y a également les clubs communautaires. Les clubs communautaires sont organisés par des adolescents déscolarisés. Ce sont les adolescents qui ont rompu avec les études et donc avec eux aussi, nous les encadrons avec des thématiques concernant la santé sexuelle. Ça peut être la puberté, les jeunes menstruels, etc.
Oui, vous avez parlé des adolescents non scolarisés, mais je vois aussi les filles mères qui sont dans cette tranche d'âge des 18 à 19 ans. Il y a aussi des enfants de la rue. Comment vous faites pour cette catégorie d'enfants dans les prises en charge?
Il faut dire que la politique de Save the Children privilégie les enfants au sein de la famille. Voilà pourquoi nous, dans les cadres de notre projet, nous avons identifié les enfants déscolarisés mais qui vivent au sein de familles.
Vous associez les enseignants dans le travail que vous faites, mais vous associez aussi les parents. Pourquoi?
Parce que nous estimons que ces deux acteurs, ils sont les contacts directs des adolescents. Et nous pensons que si nous leur fournissons des informations de meilleure qualité, ils peuvent facilement influencer le comportement des adolescents.
Ce projet a été lancé il y a exactement 3 ans. Si on vous demandait de faire un petit bilan de ce projet, qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais que le projet est sur la bonne voie parce que les premières années ont été consacrées à poser les bases. Nous avions organisé des formations, des enseignants, des leaders communautaires, des récopés et même la formation des récopés sur comment mener les sessions vidéo. Et maintenant, là, nous sommes vraiment dans la mise en œuvre. Nous sommes en train d'assurer le suivi. Et donc, je peux vous assurer que les quelques informations que nous avions mises à la disposition des adolescents les ont assimilées. Et même si vous parlez avec certains parents, on comprend qu'il y a quand même un début de changement de comportement qui s'installe.
Madame Pascaline Palama, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Nouvelle en plus bref, le courant passe bien entre les femmes soldats de la paix, les femmes et jeunes filles du village Lakpa dans la province de l'Ituri. Le 22 mars dernier, des femmes casque bleu du contingent bangladais ont échangé avec les femmes de ce village qu'elles ont sensibilisées à l'hygiène et à l'assainissement de leur milieu. La plupart de ces femmes et filles interagissent avec les femmes soldats de la MONUSCO opérant dans cette région et trouvent en celle-ci une source d'inspiration et des modèles. Restons dans l'est du pays, au nord Kivu cette fois-ci. Malgré le contexte difficile de la pandémie du coronavirus, la MONUSCO continue à mettre en œuvre son mandat de protection des civils, d'appui à la stabilisation et au renforcement des institutions étatiques en RDC. Preuve de cette continuité, le 19 mars dernier, la chef de la section protection de l'enfant de la mission onusienne, Di Brillenburg-Wurtz, s'est rendue à Machango, en territoire de Rutshuru, où elle a signé sa 13e feuille de route avec un groupe armé contre le recrutement d'enfants aux soldats. Enfin, mauvaise nouvelle, le personnel de MSF Hollande, victime d'attaques d'hommes armés, nous sommes à Kilembwe, en territoire de Fizio Sud Kivu. Les faits remontent à la nuit de dimanche à lundi dernier. Cet homme armé ont agressé le personnel de cette ONG humanitaire et emporté tous les biens de valeur trouvés, dont l'argent, les téléphones cellulaires et les ordinateurs. La police nationale congolaise a ouvert une enquête.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comme annoncé dans le sommaire, notre invité est le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo. La principale réponse au Covid-19, c'est la prévention, a déclaré Edouard Begbider, parlant de l'appui de son agence au gouvernement dans la riposte contre cette pandémie. Suivez plutôt l'entretien du représentant de l'UNICEF avec Jean-Pierre Elali Koko.
Edouard Begbider, bonjour.
Bonjour.
Dans un communiqué, l'UNICEF dit travailler avec le gouvernement de la RDC dans la riposte contre la pandémie des coronavirus. Quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les efforts du gouvernement?
Alors, l'UNICEF, même avant que le premier cas de coronavirus ait apparu en RDC, s'est rapproché du ministère de la Santé pour essayer de faire de la prévention. De la prévention avec des messages clés pour la population, pour essayer d'éviter cette maladie terrible. Heureusement, en RDC, nous sommes qu'au début de cette épidémie et nous faisons tout pour essayer de la circonscrire. La principale réponse à cette épidémie, c'est la prévention. Qu'est-ce qu'est le coronavirus? Le coronavirus est un nouveau virus qui est présent chez les animaux et les humains. Et il est contagieux et se propage si nous ne respectons pas les mesures préventives. Donc avec le ministère, nous avons élaboré des messages simples et nous sommes en train de les envoyer que ce soit dans les 35 zones de santé de Kinshasa et pour finir dans les 26 provinces au niveau du pays. Et nous avons publié 200 000 affiches en trois différentes langues, le français, l'ingala, le swahili, et nous allons continuer à essayer de diversifier les langues pour les mettre à la disposition du plus grand nombre. Nous avons aussi publié 1,5 million de dépliants que là aussi nous sommes en train de dispatcher au niveau de toutes les zones de santé. Il est très important de limiter la propagation de la maladie. Il suffit de se laver fréquemment les mains. Et là aussi, l'UNICEF a un programme avec le gouvernement de lavage de mains. Dimanche dernier, c'était le 22 mars, le jour mondial de l'eau. Nous avons fait pas mal d'activités sur le lavage des mains.
Vous avez parlé des affiches. Vous avez parlé également des lave-mains dans les programmes avec le gouvernement. Est-ce que vous avez d'autres moyens que vous pouvez mettre à la disposition du gouvernement pour essayer de combattre cette pandémie?
Il y a naturellement toute la partie prévention. On en a parlé avec notamment les dépliants et les posters. Mais il y a aussi toute une stratégie de communication avec les radios communautaires, avec les télévisions, pour pouvoir passer ce massage au plus grand nombre. Et travailler d'une façon très proche avec la task force du CNC, du ministère de la Santé, présidé par le professeur Mouyembe. La deuxième chose, c'est effectivement le lavage des mains. Ça, c'est très important. Et puis, il nous faut faire venir un nombre d'articles importants. On vient de commander 160 000 masques, 90 paires de gants et 10 000 combinaisons stériles pour soutenir le système de santé. Il faut vraiment soutenir le système de santé pour qu'il ne collapse pas. Et donc notre effort, en plus de la prévention, va être de soutenir ce système de santé. Il faut aussi essayer de commander un maximum de concentrateurs d'oxygène, des ventilateurs, des respiratoires, des réanimateurs manuels, qui sont les outils nécessaires pour pouvoir faire face à ceux dont la maladie va se développer et devenir plus grave. Alors je souhaite rassurer les auditeurs. En réalité, juste 4 à 5, 6% des personnes vont avoir des problèmes respiratoires. Et donc, eux, il faut absolument qu'on ait les moyens de se faire.
Alors justement, quand vous parlez des moyens, est-ce que vous avez des moyens? Je parle de l'UNICEF, vous avez des moyens mis en place pour accompagner les communautés locales dans ces domaines, notamment dans les zones rurales de la RDC?
Au niveau des 35 zones de santé de Kinshasa et au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie, nous travaillons avec les zones de santé et avec les cellules d'action communautaire, eux-mêmes soutenues par des RECO, pour passer les mêmes messages que je viens de vous dire au niveau local. Les posters ne sont qu'une façon de passer des messages, la radio aussi. Ce qui est le plus important, c'est que lorsque les personnes au niveau local discutent avec leurs voisins et leur expliquent exactement la situation et le comportement à tenir. Plus il y a de discussions au niveau communautaire, plus la communauté comprend la maladie et sait s'en prévenir et quoi faire si jamais un de leurs membres tombent malades. Donc c'est très important d'accompagner cela en même temps que l'eau et l'assainissement, le lavage des mains et la prévention. Et de nouveau, soutenir les systèmes de santé. Et pour ce faire, je pense qu'il faut qu'on ait aussi un certain nombre de cliniques qui traitent uniquement le coronavirus dans le système existant ou en dehors du système existant pour pouvoir soigner le personnel médical.
Combien vous comptez construire les cliniques ?
Alors, ce n'est pas un effort que l'UNICEF va pouvoir faire tout seul, mais nous sommes en train de voir comment appuyer un effort national et l'UNICEF pouvoir acheter un certain nombre de matériel comme les ventilateurs ou les respirateurs ou les concentrateurs d'oxygène pour à peu près 700 lits pour les 26 provinces. Maintenant, la question, c'est que tous les pays du monde essayent d'acheter les mêmes produits au même moment. Et donc, nous allons devoir faire appel à la solidarité internationale pour essayer d'avoir un meilleur partage de ces produits qui sont nécessaires pour la petite fraction qui va développer sa maladie. Là, j'insiste bien, il n'y aura qu'une petite fraction de gens qui sont contaminés qui vont développer la maladie.
Édouard, je vous remercie.
Je vous remercie à vous.
Une trentaine de femmes rurales, nous sommes dans les territoires d'Ouvira au Sud-Kivu, ont été sensibilisées la semaine dernière à Sangui par la section Jean de la MONUSCO à s'impliquer dans la recherche de la paix en sensibilisant à leur tour des groupes armés de la région. Une campagne menée dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité est réalisée en collaboration avec la société civile Force au Vif, le programme DDR de la MONUSCO ainsi que le programme Starec Sud-Kivu. C'est un dossier signé Fiston Goma.
Les femmes venues de Kaungwe, Rukobero, Lubarika, Mutarule, Ngendo, Nyakabere, Sangendolera et Kibirizi ont explosé dans les dénonciations visant à décourager l'activisme des groupes armés dans leur milieu. Selon elles, chaque jour qui passe, il est signalé des cas d'enlèvement, des tueries, des vols de bétail, des récoltes prématurées des produits agricoles dans les champs, ainsi que des cas de viol des femmes. La section DDR de la MONUSCO a expliqué comment sensibiliser les groupes armés et les orienter vers les services compétents. Tout moins Franck, expert DDR à la MONUSCO Ouvira.
Nous sommes tous tombés d'accord que comme les femmes étant les premières victimes, ce sont les femmes qui doivent être à l'avant-plan pour aller sensibiliser les groupes armés dans la plaine de la Rusizi. Les sites où les ex-combattants peuvent se rendre au camp des contingents pakistanais de la MONUSCO à Sangue et au camp des contingents à Kamagnola, où ceux-là qui sont dans les possibilités de se rendre là-bas, on a partagé notre numéro vers 081-890-7945. Ils peuvent nous appeler à ces numéros-là et nous, on viendra les chercher là où ils sont.
Plusieurs éléments des groupes armés locaux et étrangers se sont rendus, soit au FRDC, soit à la MONUSCO, grâce à l'effort de sensibilisation communautaire. Les responsables de la section genre de la MONUSCO Bukavu a profité du mois de la femme pour impliquer les mamans rurales dans une sensibilisation de proximité dans leur milieu respectif, à l'ère Ubengwa.
Nous ne pouvons pas exposer ces femmes, leur demander d'aller sur le champ de bataille, là où les opérations sont en cours. Nous savons que ce sont nos enfants, c'est des garçons, des jeunes gens qui vivent avec nous dans nos communautés et certains se sont retirés dans la forêt, mais ils restent en contact avec leur communauté respective et nous savons que les femmes peuvent jouer un rôle clé pour leur apporter un message de paix afin qu'ils reviennent et que nous puissions retrouver la paix tant recherchée pendant plusieurs années.
Signalons que la salle communément appelée Vodacom des Sangue a servi de cadre à cette sensibilisation d'une journée. D'Ouvira, Fiston Goma Mayaba, la Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Quel est le rôle de la MONUSCO dans l'application de l'accord de paix gouvernement ex-groupe armé FRPI? La question a été posée à partir de Bounia au cours de la conférence de presse des Nations Unies du mercredi 11 mars à Kinshasa. Suivez la question ainsi que la réponse.
Séraphin Banangana, journaliste à la radio-télévision Moblé et site CRC Conseiller. Eh bien, après la signature de l'accord de paix entre, l'ex-groupe armé FRPI et les gouvernements congolais, qui compte faire à la MONUSCO pour permettre aux deux parties signataires de respecter leurs engagements afin d'un aboutissement aéré du processus. Merci.
Merci. Alors, comme vous le savez, la MONUSCO était témoin de cette signature entre le gouvernement et la force FRPI. Il y a des engagements qui ont été pris des deux côtés et qui sont des engagements propres au gouvernement et des engagements propre au FRPI. De son côté, ce que la MONUSCO va faire, il y a une préparation d'un site de cantonnement qui est en cours, et ensuite il y a tout un ensemble de projets de réintégration communautaire qui va être soutenu par la MONUSCO. L'idée, c'est qu'il faut que les communautés qui absorbent les anciens combattants, et il faut que les anciens combattants eux-mêmes puissent bénéficier d'opportunités de développement qui profitent à toute la communauté, afin de permettre à la paix de se stabiliser, de se solidifier. Et cela passe aussi par un travail de réconciliation et par la mise en place de mécanismes de dialogue et de discussion et de recherche de solutions par le dialogue et par la paix pour éviter évidemment un retour aux armes. Donc il y a des engagements gouvernementaux, il y a des engagements FRPI et il y a un soutien de la MONUSCO pour ce qui pour nous représente une opportunité sans précédent de paix dans le territoire.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Je m'appelle Liliane Ndoto Bomboko. Je suis ingénieur électricien. J'avais étudié à l'Itimbandaka. J'avais fait l'électricité générale. Et je suis venu à l'ISTA. J'ai fait l'électricité industrielle. Bon, j'étais diplômé en électricité, j'ai commencé le travail à la Monique Mbandaka le 17 mai 2001. 2005, j'ai quitté Mbandaka, je suis venu ici à Monique Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. Bon, avant de quitter Mbandaka, j'avais fait quand même un peu de travail à Médecins Sans Frontières. J'avais fait une installation là-bas, le golf grand pharmaceutique des Médecins Sans Frontières Mbandaka. Bon, normalement, si je quitte la maison, je suis arrivée au travail. Je change d'abord les habits, je prends ma tenue du travail. Et après, je vais aller voir mon chef pour donner les programmes du travail. Oui, les programmes du travail de la journée. Bon, on travaille sur les demandes des clients. Si les clients demandent, on donne job request quoi. Si ils ont des matériels, on commence à travailler. Manger comme je suis Mungala, je fais des manioc, les njombo, les mungusu, et les mbonde aussi, et les ntuka aussi. Bon, moi je prépare avec joie les faits des manioc avec le poisson fumé, mungusu. En tout cas, je préfère préparer ça comme chez nous là-bas Mbandaka. Bon, moi j'aime la musique chrétienne quoi. Allez Moloto. Et l'autre là, c'est Mike Alambayi, maman Marie Misambo. Et son âme, il repose en paix. Et notre Abbé Marcel Bakola. Et la chorale, j'ai oublié notre chorale là. Bana Mandala là. Ouais. Et avec les chansons de maman Marie, quoi. Comme j'aime la chapelle. Bon, du côté des sports, normalement, j'aime le football. Chez nous ici, bon, je suis naître. Hein. Qui gagne, gagne. Moi, je suis Barcelone. J'aime beaucoup Barcelone avec. Mon joueur préféré, Messi. Bon, comme nous, les techniciens, il n'y a pas de temps libre. Hein. Les samedis, on travaille. Les dimanches aussi, on la duty, on fait la garde. Mais le temps que je serai à la maison, je m'arrange ma chambre, je contrôle les enfants. Ou comme j'aime ma technique, quoi, j'aime mon métier, je commence à fabriquer les allonges pour vendre. Hein. Parce que quand on attend seulement les salaires, c'est mauvais. Je commence à montrer mes enfants comment moi je travaille. Comme mon petit garçon là, Ismaël, tu fais quoi, maman? Montre-moi. Bon, je montre comment je fais. Je fabrique les allonges. Je fais une petite réparation comme les réchauds, comme les fer à repasser, quoi, etc., etc. Comme je suis technicienne, quoi. Vous voyez, par exemple, quoi, notre concert là, elle a fabriqué les robots. Moi, je vais faire quand même une entreprise. Je serai leader, quoi. Bon, pour moi, après la MONUSCO, je ne peux pas laisser comme ça. Comme je suis un technicien de formation, je vais créer une entreprise. Comme moi j'aime les enfants, je vais aider les enfants qui viennent de l'humanité. Je vais faire un atelier comme ça pour aider mes sœurs, mes frères, pour donner les pratiques, quoi. Pour leur apprendre comment moi j'étais, comment moi j'ai fait. Parce que moi j'aime que les femmes soient quand même une technicienne comme moi. Parce qu'auparavant, au moment que nous étions étudiants, on m'avait dit que toi tu es garçon. J'ai dit non, moi j'aime le métier. Mais à partir de moi, dans notre école là-bas, à Litimbanaka, beaucoup d'autres filles qui étaient venues. En tout cas, premièrement, j'aime beaucoup vous tous, auditeurs, auditrices de Radio Kapi. Depuis Mbandaka, comme un chef Alex, je les salue. Oui, je salue mes fils Moïse Mdoto, Vantom Ismaël et puis Esgrosse Lomboto. Et je salue mon préféré aimé, mon cœur, c'est ingénieur Rémi Ilunga. Je les salue et je l'aime beaucoup. Bisous.
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Deux dates à retenir dans vos agendas, le 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, et le 4 avril, journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mines. La fin de ce numéro de MAG UN. Dieudonné Nyangasa était à la technique. Honoré Missinakala au reportage et à la réalisation. Jean-Pierre Ilali Ikoko au reportage ainsi qu'à la coordination. Moi, Baben Pongo Massimango, je voulais présenter. L'émission est à suivre sur le site de la Radio de la Paix, www.radiookapi.net. Merci de votre attention et excellente suite au programme sur Radio Capi.